Avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile du Christ. Qui que vous soyez, la grâce, la miséricorde et la paix vous sont données par Dieu notre Père, sans condition, pour nous permettre de vivre et d'être heureux. Nous nous présentons ensemble devant Dieu avec le premier chant que vous trouverez dans le livret liturgique qui est au début du psautier français, « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ».
Nous allons aujourd'hui entreprendre avec les enfants de l'école biblique une traversée du livre ultime de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et c'est donc avec des passages de ce livre biblique que nous ponctuerons notre liturgie ce matin. Et donc Ondine nous offre une louange issue du chapitre 19 du livre de l'Apocalypse.
Une voix sortit du trône, disant « Louez notre Dieu, vous, tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis, comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur est notre Dieu, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. » Et l'ange me dit « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. » Et il me dit Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
Poursuivons notre louange par le chant du psaume 81 dans le psautier français. Nous chanterons les strophes 1, 3 et 4. Prenons place pour entendre un passage du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse lu par Diane.
Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et j'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille un collyre pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi.
Thank you.
C'est maintenant Éléonore qui nous conduit dans la prière.
Seigneur notre Dieu, aide-nous à défaire toute crainte et timidité. Nous célébrons ta gloire et pourtant notre vie est pauvre en prière. Les jours passent sans que nous recherchions à t'écouter et à te parler. Pardonne tes faiblesses et tes négligences, renouvelle notre cœur et notre conscience et désir profond de t'écouter et de te comprendre, de te rencontrer et te servir. Pour l'amour du Christ, aie pitié de nous. Amen.
Et maintenant, Balthazar nous fait retentir des paroles de grâce que nous pouvons trouver au chapitre 7 du livre de l'Apocalypse.
Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau.
Vous pouvez prendre place. Et donc j'accueille avec grande joie une adulte, donc Anne-Catherine Michler, qui a demandé le baptême parmi nous ce matin. Donc c'est une grande joie de l'accueillir. Et c'est une joie aussi pour vous, les enfants, les jeunes, eh bien, d'avoir ce témoignage finalement de foi. Alors Anne-Catherine, avant que vous cherchiez Dieu, il était déjà auprès de vous, sur votre route, vous accompagnant. Et il y a cette promesse dans l'Évangile que rien ne vous privera de cet amour de Dieu, ni les difficultés de la vie, ni les grandes joies, ni les choses présentes, ni celles à venir. Et donc c'est le baptême et le signe, voilà, de cette promesse de Dieu de vous accompagner toujours. Alors vous songiez au baptême depuis longtemps, donc bravo d'avoir eu le courage de cette démarche personnelle, forte, sincère. Bravo pour ce cheminement fait jusqu'à présent, mais ce chemin est encore largement ouvert devant vous. Le baptême vous rappellera que chaque jour, vous n'êtes pas seul, que Dieu vous accompagne sur le chemin de votre vie. Donc je vous propose de se retrouver devant ce baptistère. Anne-Catherine. Je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, Anne-Catherine, Dieu vous conduira sur le chemin de la vie avec sa force, avec sa joie, avec cet esprit, ce dynamisme, ce souffle créateur de Dieu qui sera en vous et pour vous. Alors le baptême est donné sans condition à toute personne qui le désire, dans la liberté que Dieu nous donne de rentrer ou de ne pas rentrer dans son alliance. Vous répondez à l'amour de Dieu signifié par ce baptême en répondant par votre foi. Et donc vous avez préparé une confession de foi qui sera pour nous aujourd'hui, eh bien, la confession de foi de notre Église. Et donc je vous propose de vous lever pour vous unir du cœur à cette déclaration de foi chrétienne.
Dieu créateur, je crois en toi. Donne-nous la force, le courage et le temps.
Plus près de la bouche.
Oh, pardon. Dieu Créateur, je crois en toi. Donne-nous la force, le courage et le temps d'accomplir ce pourquoi nous sommes toujours présents, afin que chacun trouve sa place dans la dignité et le respect, non dans la répétition, mais dans la création, l'imagination, source de bonheur et d'émerveillement. Jésus-Christ, Fils de Dieu, je crois en toi. Par ton amour, forteresse de ton royaume, fais que la vie, ce cadeau, soit partage, soutien, action dans les jours heureux, et que dans les jours de gros nuages menaçants, nous prenions soin les uns des autres et trouvions refuge en ton cœur pour trouver la paix. Épargne-moi le doute et donne-moi ta confiance. Je crois en l'amour, plus fort que la mort. Je crois en la vie éternelle. Amen.
Un grand merci, Anne-Catherine. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc, Anne-Catherine, vous avez reçu le baptême, le signe de l'amour de Dieu pour vous en particulier. Vous avez répondu à cette grâce par votre foi. Nous vous recevons avec grande joie comme membre de l'Église chrétienne. Alors, l'Église chrétienne qui dépasse largement les chapelles, les églises, différentes églises particulières, catholiques, protestantes, orthodoxes, et nous vous recevons avec grande joie dans notre église de l'Oratoire. Que le Saint-Esprit affermisse votre foi, vous accorde ses dons et vous les renouvelle jour après jour. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci d'aimer, de garder, d'épanouir notre personnalité, d'y insuffler une paix, un bonheur, une force face aux peines de la vie, aux difficultés, aux épreuves, aux deuils, aux angoisses. Et puis un souffle de bienfaisance, un zeste de créativité pour embellir ce monde autour de nous. Alors notre Père, nous te remercions en particulier pour Anne-Catherine, que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui, fait que son témoignage rayonne de la plus belle des façons. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Alors merci Anne-Catherine, et vous pourrez parler un peu avec elle à la sortie, parce que dans la chapelle de gauche en sortant, eh bien, elle a choisi de préparer quelques petits apéritifs. Donc vous pourrez aller là-bas pour discuter un peu avec elle et apprendre à la connaître un peu. Merci beaucoup.
Dans le livre de l'Apocalypse, toujours, je vous propose d'entendre au chapitre 5 une vision donc, d'un livre mystérieux, d'un livre magique peut-être, que Dieu donne, mais qui est difficile à ouvrir. Nous allons donc entendre au début du chapitre 5, puis au début du chapitre 6, comment il va être possible d'ouvrir ce livre. Jean nous dit « Je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dehors, et il était scellé par sept sceaux, sept cadenas en cire. » Donc. Et je vis un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Mais nul dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni même le regarder. Alors je pleurais beaucoup parce que nul ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni même de le regarder. Alors un des anciens me dit « Ne pleure pas, voici que le lion de la tribu de Juda, le fils de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux, le premier, et j'entendis le premier des quatre êtres vivants dire comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai alors, et voici je vis passer un cheval blanc, et celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fit donner, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand l'agneau ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire « Viens !» Et alors un autre cheval, rouge feu celui-là, sortit. Et celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix sur la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns des autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire « Viens !» Je regardai, et voici, il y eut un cheval noir qui passait, et celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des quatre êtres vivants qui disait « Une mesure de blé pour un denier, trois mesures d'orge pour un denier, quant à l'huile et le vin, n'y touche pas. » Quand l'agneau ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant dire « Viens !» Je regardai, et cette fois-là, c'était un cheval de couleur verdâtre qui passa. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait, et le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire mourir les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Et donc après ce récit terrible et fantastique de l'Apocalypse que nous avons lu, tout à l'heure, James avec les petits en face et puis nous ici, eh bien, pour se rassurer peut-être un peu aussi, nous allons pouvoir chanter un cantique que nous propose Anne-Catherine, donc le cantique 204, « Seigneur, dirige et sanctifie », qui nous est donné comme une bénédiction sur notre route, sur notre cheminement, les deux strophes du 204. Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache et toi que je suis prêt à suivre parce que toi seul as droit d'être mon Seigneur et je désire être ton enfant. Guéris et ouvre mon intelligence afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir ta volonté. Guéris et ouvre mes mains pour que je puisse donner. Oui, je ne demande qu'une chose, mon Dieu, c'est que ton puissant amour, ton pardon me convertisse entièrement. Dans cette histoire fantastique donc de l'Apocalypse, le salut est présenté comme un grimoire qu'il faut arriver à ouvrir afin d'avoir la source d'une vie merveilleuse. Alors c'est pourquoi en fait une vieille Bible est exposée au milieu d'un temple protestant comme pour dire que la source de la vie qu'est Dieu, source de la vie que Dieu nous offre, est comme un livre qui nous est donné et qu'il faut arriver à interpréter. Alors un livre peut contenir des secrets incroyables, peut-être le plan pour trouver un trésor, peut-être une recette de cuisine délicieuse, peut-être une histoire qui nous bouleverse, qui change notre façon de voir la vie, peut-être une sagesse venant des temps anciens, peut-être des formules magiques qui permettent d'avoir des super pouvoirs, faire des choses incroyables. Alors oui, le salut de Dieu nous est donné comme un livre, comme un ancien grimoire qui nous ouvre sur des choses que nous n'imaginerions même pas, nous dit l'Apocalypse. Et c'est pourquoi ce livre est un peu fantastique. En fait, ce livre nous est donné dans le texte, ce livre, c'est la vie elle-même. Elle nous est donnée comme un livre venant de Dieu, comme un grimoire venant des temps anciens, la vie a des milliards d'années, elle nous arrive comme ça. Et c'est cette vie qui nous est donnée, c'est comme un livre que nous pouvons lire et interpréter librement pour en faire notre propre histoire. Mais pour ça, il faut commencer à ouvrir ce livre pour avoir accès à ses secrets. Et puis ensuite, choisir une page et faire ce qui est marqué éventuellement, ou en tout cas l'interpréter. Donc peut-être chercher le trésor dont il parle, ce trésor que nous sommes en réalité, peut-être nous ne le savions pas, ce trésor qu'est la vie, qu'est notre vie, ce trésor peut-être qu'est les autres à côté. Nous pourrons aussi à d'autres pages apprendre des formules magiques, celles qui nous donnent le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, nous dit Jean, dans cet autre livre extraordinaire qui est son évangile. Car oui, tel que nous sommes, Dieu nous donne le pouvoir de faire des miracles, en fait. Et nous ne le savions peut-être pas. Le grand livre de la vie, l'antique grimoire plein de secrets, nous l'avons entre les mains, nous sommes là. Et comme le dit l'Apocalypse, il n'est pas facile de l'ouvrir. Il est bien fermé, cadenassé par 7 sceaux. C'est pourquoi au début de ce texte, le héros de cette aventure pleure. Car il découvre que personne n'arrive à ouvrir le livre de la vie et à en comprendre le sens, ni même à regarder la vie face à face. Quelle frustration! Effectivement, nous savons ce que c'est que la vie puisque nous la vivons, mais si on nous demande le sens de la vie, si on nous demande quelle est la source de la vie, d'une vie supérieure, ou le secret pour arriver à avoir un cœur qui aime, un cœur qui est en paix, Ou le secret pour retrouver de l'optimisme quand tout d'un coup on voit tout en noir, ou pour être meilleur, ou pour avoir le pouvoir, comment trouver la formule pour rendre ceux que nous aimons un peu plus heureux, par exemple. Alors nous ne savons pas où regarder, ni comment chercher ces pouvoirs. Alors le récit de l'Apocalypse continue, ne pleure pas, il y a quelqu'un qui a vaincu pour ouvrir le livre et déverrouiller les sept sceaux qui le ferment. Et cette personne, chose étrange, était appelée à la fois le lion de Juda, puis l'agneau, l'agneau avec un A majuscule. Et cette personne, ce lion, cet agneau, c'est le Christ en fait. Fort et puissant pour ouvrir le sens de la vie, nous aider à nous confronter aux questions difficiles, aux questions angoissantes, aux questions que nous ne voulons pas nous poser peut-être. Et donc la force d'aller envers et contre toutes les négativités possibles, les souffrances, les trahisons, les échecs, les peurs, les faiblesses. Mais le Christ n'est pas seulement le lion, nous dit ce texte, il est pour nous aussi l'agneau, c'est-à-dire la bête la plus tendre, la plus douce, et dont nous avons le moins à craindre qu'il soit au monde, un agneau. L'Évangile nous dit même que la parole est l'exemple qu'est le Christ. C'est comme pour nous, comme un délicieux repas, comme un agneau rôti qu'on partage, délicieux, qu'on partage avec nos proches pour prendre des forces avant de se mettre en marche vers la vie. Et ça, c'est ce que nous dit aussi Jean dans le début de son Évangile. Christ est l'agneau de Dieu. Alors l'agneau, c'est le Christ, et quand on l'intègre en nous-mêmes, quand on le mange, quand on l'assimile par la foi, il est alors le Christ en nous. Et sa force de lion est en nous pour regarder sans crainte le livre de la vie, l'ancien grimoire qu'est l'existence humaine, de le regarder sans peur. Et puis par lui, avec lui, nous avons la force d'ouvrir ce livre avec courage et de regarder la vie telle qu'elle est, face à face, en vérité, et de vaincre. Alors les quatre premiers sceaux concernent la vie en ce monde, notre vie en ce monde. L'ouverture de ces quatre sceaux en cire qui ferment le livre, l'un après l'autre, est comme quatre verrous qui sautent pour comprendre la vie. Alors à chaque ouverture d'un de ces quatre sceaux, il y a un cri, le cri de la vie qui nous dit « Viens, avance, avance dans la découverte de la vie » et puis à chaque fois, il y a un cavalier qui passe au galop. Alors que signifie chacun de ces quatre cavaliers pour nous apprendre la vie? Quelle expérience nous font-ils vivre finalement pour la dépasser, pour en sortir grandi et trouver le sens que nous donnerons nous-mêmes à notre propre vie? Alors le premier cavalier est blanc, il part en vainqueur pour vaincre, nous dit le voyant de l'Apocalypse. Alors nous aimerions être comme ce chevalier blanc, être toujours victorieux de tous les obstacles que nous rencontrons. Et puis voilà que, comme tous les êtres humains, nous avons des limites. Alors c'est difficile à accepter, à comprendre, à saisir, à ne pas se décourager. Cette première expérience nous apprend que nous ne sommes pas Dieu. Mais d'ailleurs, Dieu lui-même connaît l'échec. Sans cela, il n'y aurait pas de mal dans ce monde, pas de catastrophe, pas de haine, tout le monde serait gentil. C'est pourquoi Jésus nous apprend à prier dans le Notre Père, que la volonté de Dieu soit un peu plus faite sur la terre comme au ciel. Mais voilà, nous ne sommes même pas Dieu. Alors par contre, nous pouvons compter sur lui pour nous aider à apprendre à vivre en ce monde et dans, voilà, à faire quand même quelque chose. Et pour ça, il est bon d'intégrer cette dimension, de ne pas avoir peur de l'échec pour se lancer dans la vie. De ne pas avoir peur de ne pas être Dieu, de ne pas être parfait, d'être comme nous sommes. Et puis peut-être de ne pas faire comme ce cavalier blanc, de chercher à vaincre les autres. Ni peut-être accepter de ne pas être triste si nous ne sommes pas le meilleur du monde, meilleur que les autres qui nous entourent, être simplement nous et que ce soit déjà bien. Mais tout simplement chercher à s'améliorer, à avancer dans notre propre chemin, accompagné de Dieu qui nous encourage et qui nous dit simplement « Viens, viens, avance dans la vie, ton salut ne dépend pas de tes réussites matérielles, sentimentales, humaines, ne dépend pas du fait d'être génie, parfait, le salut t'est déjà donné, Toute victoire supplémentaire à sa propre beauté en elle-même, donc, viens, tu n'es pas seul. Alors le premier cavalier était blanc, le deuxième cavalier qui passe est rouge et il a le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. Là encore, il est bon pour vivre de dépasser ce que vit ce cavalier, ce qu'est ce cavalier. L'homme trop souvent cherche la guerre, critique, divise et jaloux des autres, veut s'imposer. Alors je ne sais pas pourquoi nous avons cette incroyable passion pour enlever la paix sur la terre au lieu de bâtir la paix. Pourquoi diable, génération après génération, l'humanité n'a-t-elle pas encore pris le goût de la paix et de vivre ensemble, en paix? Pourquoi les humains n'ont-ils pas encore appris à s'ouvrir à celui qui seul donne la paix, l'agneau de Dieu? Alors pour comprendre la vie, il est bon d'avoir compris, d'avoir saisi que ce cavalier est en nous-mêmes pour le démasquer quand il passe et le reconnaître, ce diabolique cavalier rouge sang, et se dire « Tiens, encore lui !» Et puis écouter une autre voix, celle d'un être vivant qui me dit « Viens, avance dans la paix, viens et fais avancer la paix. » Alors le premier cavalier était blanc, le deuxième était rouge, le troisième cavalier est noir et il tient une balance à la main. Ce cavalier, il compte, il pèse, il cherche la valeur de toute chose, il cherche à acheter, à vendre, c'est sa façon de fonctionner. La voix de la vie lui apprend qu'il peut acheter de quoi manger. Le texte nous dit, oui, tu peux acheter de l'orge pour ton cheval, pour un denier, et acheter du blé pour ton pain, pour un denier. D'en acheter ainsi. Un denier, c'est le salaire d'un ouvrier pour une journée de travail. Donc notre travail peut servir à nourrir notre cheval pour faire avancer les choses, pour être dans un cheminement, avancer la vie. Alors oui, pour ça, il faut se donner un peu de mal, investir. Et puis oui, il faut aussi investir pour nourrir le cavalier que nous sommes et puis être plus en forme. Alors, c'est vrai que ça, la dynamique pour avancer, c'est vrai que pour être en forme, eh bien, ça dépend de ce que nous investissons finalement dans le soin de notre propre vie. Et cela vaut le coup donc, nous dit la voix, eh bien, d'investir là-dedans. Mais ensuite, la voix de la vie, la voix de Dieu, la voix de la sagesse nous dit que l'huile et le vin ne s'achètent pas, eux, et qu'on ne peut pas les peser, les mesurer comme ça, les évaluer. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? L'huile évoque dans la Bible la bénédiction de Dieu. Elle évoque la mission que Dieu nous donne à chacun, à chacune, à chacun, pour entrer dans son équipe et avoir part au progrès du monde, pour rendre la vie plus belle, plus vivable. Et puis le vin, ça évoque la vie joyeuse, la joie. Et donc cette expérience du troisième cavalier nous apprend que ces choses importantes-là, spirituelles, elles ne se pèsent pas, elles ne s'achètent pas. Alors oui, la bénédiction, ça ne s'achète pas, ça ne se vend pas, ça se donne, ça se reçoit. Et puis le sens de notre vie, la beauté, la valeur de notre vie, la place que nous avons dans ce monde, la mission, le travail que nous pouvons faire, le petit geste, la petite parole, toutes sont aussi indispensables les unes que les autres et donc ça ne se pèse pas, ça ne s'évalue pas. On peut simplement trouver, chercher notre place dans ce monde et puis tenter d'offrir aux autres quelque chose. Tout cela se reçoit comme un cadeau et s'offre comme un don. J'entends alors la voix d'un être vivant qui toujours me dit, cette fois-là, joyeusement, viens, sois béni et rayonne tout simplement de ce que tu es pour la joie d'embellir la vie. Ça n'a pas de prix, ça. Le quatrième cavalier, enfin, est verdâtre et il se nomme la mort. Voilà peut-être la question la plus dure à regarder en face, le verrou le plus difficile à briser pour ouvrir le sens de la vie, pour le dépasser aussi, ce verrou, comme les trois autres. Ce que nous n'avons pas trop, le fait que nous n'avons pas trop de temps sur la terre, que la vie est courte en fait, limitée. Alors nous avons parfois tendance à faire semblant et à vivre comme si nous avions le temps et remettre sans cesse au lendemain le fait de vivre enfin un peu notre vie. Alors d'autres inverses, on pourrait avoir tendance à se désespérer face à la mort qui s'avance, les années qui défilent, le vieillissement, l'usure de l'habitude, la peur des catastrophes, de la maladie. Et donc pour vivre, pour vivre la journée d'aujourd'hui simplement et puis le reste de notre vie. Il est bon de voir passer, de tenir compte de ce quatrième cavalier verdâtre qu'on nomme la mort. Non pour s'angoisser au contraire, mais pour aimer la vie, pour choisir la vie et pour la vivre. Et pour la vivre en lien avec ce qui dépasse la mort, avec Dieu, tout simplement, et ce qu'il apporte. Il est la source de la vie qui dépasse même la vie. C'est une réalité en fait. Et c'est l'objet des sceaux de cire suivants, parce que nous avons lu les quatre premiers, mais il y en a encore trois autres à ouvrir, pour arriver au septième sceau et à la Jérusalem céleste qui descend. Alors c'est l'objet de l'évangile finalement, qui nous fait découvrir comment dans notre vie Dieu apporte une réponse à ces quatre questions et même à celle de la mort. Découvrir et en vivre, comme le dit l'apôtre Paul. Que dans toutes ces choses, dans toutes ces limites de l'existence, eh bien nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Dieu. Et Paul ajoute, rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni celles à venir, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alors oui, l'Évangile nous propose ainsi de dépasser ces quatre expériences négatives de la vie, de les ouvrir comme quatre questions essentielles. La question de nos échecs, de nos limites. La question de nos problèmes avec les autres. La question de notre désir de tout posséder, de tout mesurer, d'acheter, de vendre. Et enfin la question que nous pose la mort. Notre vie n'a pas un sens qui est donné a priori. La vie nous vient de loin, elle nous vient du fond des âges, et elle est pour nous comme une énigme en fait. Quel est le sens de ma vie? Elle est comme ce grimoire fermé, cacheté, livre que nous n'avons même pas des fois la force de regarder face à face. Le Christ nous donne le courage de regarder la vie face à face. L'agneau nous aide à ouvrir ce livre, à chercher et à commencer à écrire avec Dieu le sens que nous pouvons donner, non pas à la vie en général, mais à notre vie, à nous en fait. Et cela commence par affronter ces quatre questions sans les éviter pour en chercher une réponse intelligente et vraie, une réponse personnelle, une réponse qui fasse notre vie finalement. Ces quatre cavaliers, ça représente les quatre grandes limites de notre vie, et elles représentent aussi les quatre grandes aides transcendantes, formidables, imprévisibles que Dieu nous donne en Christ pour vivre ces limites et les dépasser autrement, de la plus belle des façons. Les dépasser par le haut, finalement. Le cavalier blanc qui porte une couronne peut évoquer le Christ aussi. Le Christ qui porte la certitude du pardon de Dieu sur nos échecs, sur nos limites, sur nos faiblesses. Le cavalier rouge, rouge feu, peut évoquer la parole de Dieu qui nous rend capables d'aimer, qui travaille à l'intérieur de nous-mêmes pour nous donner une force nouvelle. Et le cavalier qui avance la balance à la main pour évoquer la grâce de Dieu finalement. La grâce de Dieu qui dit notre valeur infinie aux yeux de Dieu et que nous pesons un prix, un poids infini aux yeux de Dieu, aux yeux de ceux qui nous aiment. Et puis le cavalier verdâtre, il évoquait la mort mais il peut évoquer aussi un nouveau printemps qui nous dit la résurrection et que jamais avec Dieu la mort n'aura le dernier mot. Mais que nous sommes promis à la vie, vraiment à la vie, maintenant, pour vivre notre vie. Alors l'Évangile est une reprogrammation de notre façon de vivre notre vie, c'est avec ses limites et sa extraordinaire beauté. Un changement de logique dans notre recherche, une ouverture de la transcendance. La question n'est donc pas celle de la perfection, comme le pensait le premier cavalier, mais d'entendre l'appel du premier vivant, viens, et donc aller de l'avant, aller à l'appel vers ce Dieu, il est le premier des vivants. Et puis entendre aussi le cri des autres personnes vivantes à nos côtés, d'entendre leur besoin de nous rencontrer, d'avoir un coup de main de notre part, d'être en lien ensemble, d'entendre leur être qui ne sait peut-être même pas le dire, mais qui nous dit, viens, et qui nous disent leur soif de vivre avec nous. Alors bien sûr, c'est difficile de répondre à ce cri « Viens ». Car nous avons de quoi avoir peur, car se rencontrer, c'est aussi se cogner, se froisser, sentir nos limites. Mais dans un autre sens, ce vient, c'est vivre et dépasser nos limites, justement. Nous ne pourrons pas être dans la paix parfaite, certes, mais nous y travaillerons, nous progresserons, nous avancerons, main dans la main. Viens, nous dit Dieu, et nous essayerons de nous réconcilier avec Dieu, de nous expliquer, d'aller l'un vers l'autre, et alors tu seras mon enfant, dit Dieu, et je serai ton Dieu. Et tu découvriras que tu fais partie avec les autres humains d'un peuple, de mon peuple. Tous ensemble, vous le constituez. Et donc ce vient que Dieu nous dit, c'est le premier dépassement de nos limites. Le second est dans l'appel à découvrir le prix de la gratuité, je crois, de ce qui ne s'achète ni ne se vend. L'incroyable valeur de la grâce, c'est de Dieu que nous l'apprenons. Par Dieu, nous devenons capables, avec lui, nous pouvons nous reposer sur cette grâce. Et ainsi, ne plus attendre de mourir pour vivre, ce qui est ridicule, et ne plus vivre pour la mort, mais de vivre tout simplement, de vivre ce jour, de vivre au jour le jour. « Seigneur, dit Pierre à Jésus, qui lui demandait, qu'est-ce que vous pensez ?»« Seigneur, dit Pierre à Jésus, à qui d'autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu nous donnes la paix, tu nous donnes ta paix, cette paix que le monde ne peut donner parce qu'il ne la connaît pas. De sorte qu'enfin notre cœur ne se trouble plus et ne s'alarme plus. » Amen. Alors je vous propose maintenant de chanter le psaume 72 dans le psautier français. Revêt Seigneur de ta justice le prince de la paix pour que Jésus donc soit Christ pour nous. Les trois premières strophes de ce psaume 72. Vous pouvez prendre place pour quelques annonces. Alors, l'éducation biblique, voilà, jusqu'à 16h. Demain soir, il y a le groupe des Grecs bibliques pour les progressants. Mardi, le grec biblique pour les débutants. Et puis le soir, nous avons une rencontre des participants au cycle d'initiation à la théologie chrétienne, les deux cycles de cette année. Un repas partagé, voilà, pour continuer à se travailler un peu ensemble une dernière fois avant la fin de l'année. Jeudi, il y a la répétition du chœur à 19h30 qui prépare donc un beau concert donc de Rossini. Samedi, il y a la prière silencieuse à 18h, le petit groupe de prière en face à la maison presbytérale aux 4 rue de l'Oratoire. Et puis dimanche, ici même, le culte avec le pasteur Marcel Manoël qui donnera la prédication. Et puis l'après-midi, il y aura un temps de promenade avec quelques-uns autour de Laurence, pour aller, je ne sais pas ce qu'ils vous organiseraient comme visite, peut-être quelque chose. Donc vous pouvez venir avec votre pique-nique si vous désirez. Voilà, c'est l'après-midi partagé ensemble. Maintenant, c'est le moment donc de l'offrande. Nous recevons tout gratuitement de la part de Dieu et l'offrande est un témoignage de notre reconnaissance. Et ça permet à l'Église d'annoncer l'Évangile avec vous dans ce monde qui en a tant besoin. Nous prions Dieu. Ô notre Dieu, sois vraiment béni pour ta parole de vie, parole qui dépasse tout ce que l'on peut en dire, mais qui met en nous quelque chose de si profond et de si vrai. Accorde-nous de la recevoir précieusement dans nos cœurs pour qu'elle y purifie, la source de nos pensées, de nos projets, qu'elle oriente nos désirs vers ce qu'il y a de plus juste et de plus bon. Que ton puissant amour l'emporte sur notre faiblesse, sur nos peurs, sur nos limites. Que ton esprit nous invite à trouver maintenant la parole, l'acte, la vie qui fera avancer la vie. Oui, béni sois-tu, éternel notre Dieu, que toute la terre soit vraiment vivifiée par ta présence. Béni sois-tu, notre Père qui es aux cieux. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous abandonne pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc après la bénédiction que nous allons recevoir de Dieu, vous pourrez laisser les cantiques sur le bord des allées centrales, sur les chaises, pour que ça soit plus facile donc de circuler. Oui, l'Éternel nous bénit, en particulier, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, toi. Que l'Éternel fasse briller sa lumière sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Béni sois-tu, ô Dieu, source de la vie.